Bonjour et bienvenue au One Eye Club, le podcast BD bimensuel qui bronze au soleil des Calanques. De retour sur le festival des BD et des bulles. Ah non, c'est pas celui-là. De retour sur le festival donc des Calanques et des bulles. Mais qui est-il? D'où vient-il ce formidable héros des temps nouveaux, le pied-pied?
Ouh, j'ai réussi à venir quelques temps pour histoire de passer un bon moment sur ce festival qui est fort sympathique. J'ai fait un tour rapide. Alors en gros, Thio et Ti, Isaac, on fait plein d'interviews. Alias Isaac, on fait plein d'interviews qu'on va coller un petit peu à gauche à droite. Et puis, entre chaque interview, ben, vous allez avoir... on ne sait pas trop, on va parler aux gens, on va leur demander ce qu'ils font là, qui ils sont, d'où ils viennent, dans quel étage ils errent. Ça marche moins bien comme ça. À tout de suite.
Et donc maintenant, au Festival des Calanques et des Bulles, donc nous accueillons... Merci. Nous accueillons Maddy.
Il faut recommencer.
Pourquoi?
Non, tu crois pas?
Oui, mais après, en fait, il s'occupera au montage.
Oh, mais ça va faire du boulot pour le monteur, là.
Voilà, tu vois, il y en a qui pensent à toi, Pierrick. Moi, non. Bonjour, donc, nous...
Bonjour, Pierrick.
Bienvenue dans la Calanque Festival. Bienvenue, donc, toujours au Festival des Calanques et des Bulles, sans mâcher tous les mots. Donc, nous accueillons Maddy. Bonjour.
Bonjour. Magnifique bruitage.
C'est ça. Okay. Voilà. Maddy, donc, qui est célèbre all around the world.
Célèbre, oui. Oui, dans mon petit monde, alors, dans ce cas.
Donc, pour son blog Les Madeleines de Maddy.
Voilà.
Et puis ensuite, donc, pour des publications BD comme...
Et toi, quand est-ce que tu t'y mets?
Et toi, quand est-ce que tu t'y mets? Et aussi, les filles ne sont... Non.
Ah, toutes les filles ne sont pas des cordons bleus, mais c'est le volume 2 des Madeleines de Maddy. Voilà.
Voilà. Quelle est ton actualité en ce moment?
Eh bien, la suite de « Et toi, quand est-ce que tu t'y mets ?»
Le tome 2, donc.
Le tome 2, qui est une suite indirecte, on va dire, où on retrouve les personnages du 1, qui aborde aussi un sujet sociétal, on va dire.
C'est-à-dire?
Ah, surprise.
Ok. J'avais une première question pour toi, en fait. C'est pourquoi les Madeleines de Maddy et pas la Madeleine de Maddy?
Parce que c'est plusieurs souvenirs, c'est plusieurs anecdotes de vie, de l'enfance, voilà.
Okay.
Il n'y en a pas qu'une.
D'accord.
Je laisse sa Madeleine à Proust, tout va bien.
Pourquoi avoir fait un blog BD au départ?
Alors, c'est une longue histoire que j'ai déjà racontée souvent.
Je suis désolée, je ne vais pas faire des redites alors.
En fait, je travaillais dans les arts graphiques. À l'époque, j'étais en dessin animé. J'étais sur une production qui était assez éreintante. Et ça faisait longtemps que je voulais faire de la bande dessinée depuis l'adolescence. Parce que j'ai appris à dessiner, entre autres, en faisant de la BD dans des fanzines. Voilà. Et je ne trouvais pas de style graphique, en fait, de quelque chose qui me permette justement de faire de la BD en étant à l'aise. Et tout le monde me disait, fais un blog, t'as qu'à faire un blog. Et moi, je disais, non, je vais pas faire un blog, je vais pas faire comme tout le monde. Et puis, du coup, j'ai fait un blog. Donc, voilà. Donc, je pense que ça résume.
Ça résume.
Voilà.
Et donc là, en dehors de la bande dessinée?
J'ai de l'illustration et un petit peu de scénario.
Ok.
Voilà.
Pour arriver justement à ton style, ça fait combien de temps un petit peu tes inspirations? Ça a été quoi?
J'ai plein d'inspirations. Ça fait 10 ans quand même que je fais du dessin de manière professionnelle. Donc j'avais déjà pas mal évolué. Et pour arriver au style d'aujourd'hui, c'est vrai que le style Madeleine Martin a pas mal évolué, enfin le style du blog. Et je dirais 3 ans, quoi. Enfin la durée de vie. Mais j'évoluerai tout le temps, je pense, comme tout le monde. Hein, on progresse et voilà.
Oui, parce que ton blog a depuis 2008, je crois, c'est ça? Donc, tu as fait 4 ans aujourd'hui.
Ah oh, la vache, ouais.
J'ai vu justement sur ton blog que tu avais fait plusieurs illustrations pour France Inter sur.
Oui, sur c'est du classique, mais c'est pas grave. C'est une émission qui passe tous les samedis à 16h, qui justement démonte les préjugés sur la musique classique. J'aime bien démonter les préjugés. Enfin, quand on me permet de le faire, ou d'y participer un peu, c'est cool.
Et c'est une passion, la musique classique, ou c'était...
Non, c'est vraiment une opportunité, okay. Et j'apprends plein de choses. Donc c'est pas mal.
Ton point de vue des...
Mon point de vue.
Sur les BD numériques. Sur le numérique en général, le passage, donc, de... En disant, il faut du blog au début, là, tu es revenu sur un format papier.
Ouais. Je ne sais pas si je suis suffisamment armée pour répondre à cette question, surtout que je pense qu'elle est déjà assez mouvante. C'est quelque chose qui n'est pas réglé, je pense. Que tout le monde ne sait pas vraiment où on va. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est un nouveau support qui offre plein de potentialités. Il ne faut juste pas faire n'importe quoi. Je sais pas, moi j'attends de voir. Là pour l'instant, j'ai pas de vision globale ni d'argument ultra précis là-dessus.
Ok.
Voilà.
Quelle est ta dernière découverte en bande dessinée?
C'est Portugal de Cyril Pedrosa.
Très très bien.
Je confirme. Voilà. Il est en exposition chez moi.
Je sais pas si c'est une découverte, hein, parce que c'est un auteur que j'adore et que je suis depuis un petit bout de temps maintenant.
Mais c'est vrai que Portugal a été quand même un.
Ah ouais, c'est magnifique.
T'as une question?
Tu parlais justement d'évolution dans ton style graphique. Tu aurais envie d'évoluer dans quel sens, de t'ouvrir sur quel type de piste?
J'aimerais bien faire un style plus lâché, mais de manière étrange, la BD qui suivra le volume 2 de « Toi, quand est-ce que tu t'y mets ?», qui sera de la SF rétro d'inspiration Barbarella, mais féminine. Mais je pense que ce sera quand même très tout public. Un style encore plus réaliste. Donc je crois que je me contredis entre mes ambitions et ce que je fais concrètement. Donc je vais faire cet album qui donc revient à certains de mes premiers amours, qui est justement le côté Barbarella, les dessins de Forest et tout cet univers années 70 de science-fiction que j'adore. Et après, j'aimerais bien effectivement peut-être quelque chose de plus lâché. Essayer.
On parlait de Maya tout à l'heure, justement aller vers quelque chose de...
Alors Maya, je ne sais pas si on peut dire que c'est lâché, c'est très stylisé, c'est extrêmement artistique. Mais pour moi, je dirais pas, j'irais plus ça du style de Bastien Vivès. Après, peut-être que je dis une grosse connerie et qu'il va m'en vouloir à mort si jamais il tombe sur interview, ce qui m'étonnerait. Mais je dirais plus ça, ouais, vraiment une dextérité presque instinctive, quoi.
D'accord.
Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, hein,
oui,
en dessin. Pour beaucoup d'auteurs, c'est très rare.
Et comment est-ce que tu travailles justement sur tes albums?
Ça dépend si je travaille seule ou pas, mais généralement je fais comme tout le monde, hein. Je fais des crayonnés, je monte mes pages, je fais les dialogues, j'encre et je mets en couleur. Voilà.
Classique, quoi.
Oui, je pense qu'il n'y a pas de secret.
Couleur à la main, couleur numérique?
Non, numérique.
Numérique.
L'ancrage aussi.
Et nous sommes avec Pierre Gomassi qui nous montre son superbe travail à la fois sur Rêve de Bulle et puis aussi ses superbes bas-reliefs. Alors je crois que bas-relief, c'est pas exactement le mot, c'est ça?
Ce sont des hauts-reliefs plus précisément, les bas-reliefs se rapprochant davantage de la technique de la médaille en fait. Les hauts-reliefs étant en partie un peu de la ronde bosse en fait, agrégée à un aplat. Voilà, c'est la grosse différence entre le bas et le haut-relief.
Ok, bah j'espère que tout le monde aura compris, moi j'ai du mal. Je vais me rapprocher parce que là, avec le stand au milieu, c'est difficile. En gros, au niveau de tes hauts-reliefs, tu as décidé de travailler sur la bande dessinée. Pourquoi bosser sur la bande BD?
Waouh, alors ça c'est une longue histoire qui date de mes 7-8 ans en fait, quand je suis rentré dans la bande dessinée, qui est un univers dans lequel j'ai toujours évolué. Et j'ai rencontré pas mal d'artistes, enfin pas mal de dessinateurs sur les salons de bande dessinée. Et puis un jour j'ai eu envie d'aller un peu plus loin et de monter des collaborations avec eux. Et donc j'ai démarré avec Anna Mirales et la Jean, voilà, qui est sur le stand.
Et qui est un peu magnifique. Et sinon, Rêve de Bulle. Alors Rêve de Bulle, c'est un concept, moi, que je trouve assez génial. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu?
Oui, alors Rêve de Bulle, en fait, est un collectif, représente un collectif d'auteurs de bandes dessinées qui réunit de très très grands artistes du 9e art comme Guarnido, Anna Mirales, Juillard, Didier Poli et bien d'autres, et qui ont l'immense générosité d'offrir des crayonnés ou des storyboards de certains de leurs albums, qui sont édités ensuite en tirage limité entre 100 et 400 exemplaires en tirage de luxe et que nous représentons en fait sur certains festivals de bande dessinée, et tous les bénéfices en fait vont au profit d'une association qui s'appelle Orphelin du Monde. Voilà en gros le concept de Rêve de Bulle.
Bah merci Pierre Hugo, on essaie de se revoir une autre fois pour parler un peu plus en détail de tout ça. À bientôt, ciao.
Très volontiers, à bientôt et bon festival.
Bonjour, nous sommes donc toujours au Festival des Calanques et des Bulles où nous accueillons Jean-Michel Thirier. Bonjour.
Bonjour.
Donc Jean-Michel Thirier qui est un auteur assez prolifique dans le sens où il y a quand même beaucoup de parutions qui ont été faites par toi. Après, tu as donc travaillé dans le journal Spirou, à la télé aussi.
Oui, une année, oui.
Donc voilà, c'est pour Les Nuls et Moustiques, je crois.
Ah oui, j'avais oublié Les Nuls. Un peu plus qu'une année, alors. Un an et demi, oui.
Quelle est ton actualité aujourd'hui ?
Eh bien, pas grand-chose en livre. Je continue à publier dans Fluide tous les mois, dans Spirou sporadiquement dans le journal, mais toutes les semaines au moins un édito, un petit dessin d'abonnement ou le minimum syndical. Je fais de l'illustration dans les journaux, un journal scientifique qui s'appelle Pour la Science. C'est rigolo de bosser pour des journaux scientifiques parce que c'est pas du tout le même lectorat, évidemment. Et c'est des gens qui ont pas du tout le même humour et ils sont pas habitués à l'humour de la bande dessinée. Par contre, ils ont un humour assez précis, à savoir plus scientifique, plus technique que l'humour habituel et plus mécanique. Ils aiment bien les contrepétries, les jeux de mots et tout comme ça. Et moi, j'essaye de les tirer vers un peu un autre humour et réciproquement. Et eux, ils me tirent vers la science.
Justement, tu nous parlais donc de Spirou. Donc dessus, tu faisais les bulletins d'abonnement, les sommaires, je crois.
Oui, ça je le fais toujours depuis 94, je crois. Je dois voir depuis 94, toutes les semaines, il y a un bon d'abonnement.
Avec donc aussi la malédiction de la page 13.
Ah oui, oh, ça c'est vieux. C'était les initiatives à Tinlot à l'époque. C'était les animations du journal qu'on faisait vers les années 2000. Entre autres, la malédiction de la page 13. Ouais, on a fait un peu toutes les conneries qu'on pouvait faire.
Oui, il y avait eu la correctrice orthographique. Il y avait eu...
Oui, des trucs qui ne marchaient pas, soi-disant. Des brouillons, des piratages de personnages. On s'est bien amusé avec toute l'équipe et tous les gens qui voulaient bien qu'on démolisse un peu leurs personnages au passage.
Justement, dans toutes ces années, pourquoi ne pas avoir créé un personnage récurrent, on va dire, que tu pourrais suivre ?
J'en ai fait un, mais il n'est pas très marquant, il est assez neutre. Et, en fait, c'est parce que je fais de l'humour de situation, mais pas de l'humour de personnage. J'ai toujours eu envie de trouver un personnage qui soit bien précis, qui trouve petit à petit sa place et son caractère, et après qui... On a l'impression qu'il vit sa vie un peu, les gags sont un peu induits par le personnage s'il est bien défini, mais moi j'arrive jamais, c'est toujours un personnage qui regarde quelque chose, qui assiste à quelque chose, mais le sujet de mon humour c'est souvent l'événement autour et pas le personnage central. Quoi.
Le teckel le plus long du monde n'aurait pas pu être un...
Ah si, celui-là oui, mais bon je l'ai fait quelques années puis on m'a dit c'est bon, tu peux arrêter, ça suffit.
Il est trop grand finalement. Justement, au niveau des gags, est-ce qu'à un moment on n'a pas peur de se répéter ? Alors, je pense que c'est une question qu'on a déjà posée plein de fois. Mais
je crois que je me répète de toute façon parce que j'ai commencé en 83. Je sais qu'en 84, je commençais à chercher des idées, à retomber sur ma première idée que j'ai publiée dans Fluide. 10 ans après, c'était toujours pareil. Et on s'aperçoit quand même qu'on a des mécaniques mentaux qu'on ne domine pas complètement et on retombe un peu toujours dans les mêmes leitmotifs. Il faut vraiment se nourrir l'esprit pour changer soi-même, pour s'ouvrir à d'autres réflexions, d'autres mécanismes narratifs. mais c'est très courant que je retrouve des idées. Surtout dans Spirou, à l'époque, j'en ai tartiné pas mal, des histoires très courtes, des idées comme ça que je distribuais, que je dessinais pas, que j'oubliais vite fait dès que je l'avais envoyé parce que j'avais d'autres boulots à faire. Et après, apparition, comme les bons d'abonnement qui paraissent en ce moment dans Spirou, ça fait des années, il y en a qui replacent. Et j'ai complètement oublié. Alors l'avantage, c'est qu'on est un peu vierge comme lecteur, on redécouvre complètement ce qu'on a fait. Et des fois, on regrette. Puis des fois, on dit, comme on a tout oublié, ben c'est très objectif comme lecture. On dit, ah, ça, c'est pas mal.
Et le fait d'avoir travaillé à la télé, est-ce que ça a permis justement un autre type d'humour, d'autres... Même une inspiration du coup pour revenir ensuite à la bande dessinée.
Mais c'est pour ça que ça n'a pas trop marché à la télé. C'est ce que je raconte dans Fluide. Enfin, ça va. Je viens de le dessiner. Ça va paraître dans deux mois. C'est que l'humour de la télévision, surtout à Groland, parce que j'ai commencé la première année de Groland, ça s'appelait Les Nouvelles du Moustique, et on me réclamait déjà de l'humour d'actualité, ce en quoi je suis vraiment mauvais. Et il y a des trucs qui passent très bien en bande dessinée et qui passent pas quand on les tourne en vidéo. Par exemple, j'avais dessiné un sketch qui était destiné à être tourné. J'en ai fait deux, j'en parle un dans Fluide, mais il y en a un dont j'ai pas parlé. C'était une centrale électrique avec des bonzes à la place des réacteurs, des bonzes bouddhistes qui se concentrent tous avec trois électrodes sur le crâne. Et sur le papier, c'est rigolo parce qu'on peut, mettre 50 000 bonzes, les dessiner dans une centrale électrique bouddhiste, mais avec des figurants, on prend trois mecs, on leur colle trois trucs dessus, et puis ça le fait pas, quoi, parce que les gens, ils regardent le sketch, ils voient tout de suite qu'on est allé tourner ça dans un hangar ou dans une centrale électrique, et si on le dessine, c'est rigolo, mais tourner, ça va pas, parce qu'on voit tout de suite que c'est beaucoup plus cheap, quoi.
Ouais.
Donc j'ai essayé pendant un an, j'ai trouvé le joint pour quelques trucs, et puis décidément, c'était pas mon univers, je préférais mon petit monde à moi, qu'on retouchait pas en plus en bande dessinée, parce que à la télé, c'est comme en cinéma, quand on écrit des scénarios, c'est relu, réécrit, tourné par quelqu'un d'autre, et après, son idée, elle est toujours un peu déformée, ou ils appelleraient ça adapté, mais nous, à l'origine de l'idée, on est toujours un peu surpris, ouais, en tout cas, et souvent déçus par ce qu'on en fait.
Tu parlais justement d'avoir besoin de se nourrir à l'extérieur. Tu te nourris de quoi ? Alors, tu as fait de la télé. Donc, est-ce que, à défaut de pouvoir servir la télé, est-ce que la télé te sert ? Ou alors, est-ce que tu vas piocher dans de la bande dessinée, dans du ciné, dans des bouquins, dans autre chose ?
Oui, ça doit être surtout télé et littérature, parce que je vais peu au cinéma et je lis pas tellement de bande dessinée que ça. Et si je m'inspire de la bande dessinée des collègues qui viennent de sortir, c'est pas très, très intéressant. C'est plutôt littérature.
D'accord, la partie actualité, ça reste compliqué.
Bref, j'arrive pas à faire l'actualité parce que soit ça me révolte et j'arrive pas à être drôle, soit je m'en fous et c'est pas la peine de traiter le sujet. Mais j'ai toujours rêvé d'être dans Le Canard Enchaîné, par exemple. J'ai essayé plusieurs fois d'envoyer des dessins, mais j'ai pas de mordant, quoi. C'est toujours un peu sur l'actualité même. En plus, je suis mauvais caricaturiste, donc dessiner des personnages politiques, c'est pas mon truc. À la rigueur, je peux traiter un peu des sujets sociaux, mais j'essaye de temps en temps aussi dans Charlie, mais ça dépasse pas. Je suis pas assez agressif, quoi. C'est toujours, moi, j'ai toujours un monde plus onirique que ça, avec des lapins et des chats qui parlent, quoi. C'est quand même avec ça que je suis plus à l'aise, quoi.
Je voulais te parler en fait de ta BD sur les. Alors là, ça y est, voilà, j'ai le trou encore. C'est les musiciens. En 80 tomes, c'est ça ?
L'histoire de la musique en 80 tomes, soi-disant, ça dépassera pas le premier tome.
Voilà, c'était la question. Je voulais savoir donc quand sortait le deuxième.
Non, j'aurais bien voulu, mais là aussi, on m'a dit bon, ça va, tu peux changer de sujet. Succès moyen, si tu pouvais parler d'autre chose. Mais de toute façon, j'aurais pas tenu 80 tomes à parler de musique. Là, j'ai mis un peu tout ce que j'avais. Les réflexions de rancœur contre l'enseignement musical à l'école, par exemple. Bon, je vais pas faire un bouquin là-dessus, quoi. J'en ai parlé quelques pages, c'est bon.
Ça suffit. Quelle est ta dernière découverte en bande dessinée ?
Découverte.
Ou ton coup de cœur ?
Je sais plus. Là, je viens de lire le dernier Guy Delisle, mais je le connaissais depuis longtemps. Qui voyage beaucoup, qui a fait un bouquin sur Pyongyang, qui a fait un bouquin sur Shenzhen, et là il a fait un bouquin sur Jérusalem. Il a passé un an à Jérusalem avec sa famille et il raconte le quotidien là-bas. C'est ce que j'ai lu tout récemment. Sinon, découverte. J'ai découvert des trucs il n'y a pas longtemps à la médiathèque de Nîmes, mais j'ai oublié le nom des auteurs, je suis désolé.
C'est pas grave. C'est pas grave. En même temps, moi aussi, j'arrive pas à retenir les noms des auteurs.
Hein. J'avais lu un bouquin très bien, je ne sais plus l'auteur. Ça s'appelle La secte. C'est quelqu'un qui a été à la secte de Scientologie et qui explique tout du début à la fin. Et je trouve que c'est un bouquin formidable qui devrait être lu dans les écoles parce que c'est vraiment la meilleure arme anti-secte qui puisse exister, de raconter comment ça se passe à l'intérieur de la Scientologie et surtout ce qui se passe quand on essaye d'en partir et qu'on se fait harceler. Enfin, vous pouvez toujours lire ça dans ce livre.
Ok. Là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de lapins et de petits chats mignons. Hein,
non, là, c'est pas mon univers du tout.
Nous sommes sur le stand des éditions Même Pas Mal, petit éditeur marseillais qui va devenir grand s'il continue à sortir plein de bouquins aussi bien, avec Chloé. Alors, les éditions Même Pas Mal, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Et pourquoi déjà on se lance dans une boîte d'édition à une époque où il y en a trop?
Parce qu'on est un peu fou. Ouais, c'est une maison d'édition de bande dessinée indépendante, voilà. Que dire de plus? On est sur Marseille, on a une douzaine d'ouvrages publiés jusqu'à présent. Ça fait 2 ans et demi qu'on existe et voilà.
Les choix des BD, ça se fait vraiment totalement au feeling, ce qui vous plaît, les gens que vous aimez, avec qui vous avez des affinités? Ou bien alors il y a vraiment une recherche d'un certain genre, d'un certain style?
Non, c'est d'abord affinitaire, effectivement, et puis après, oui, on essaye de dénicher aussi. Pour essayer de tomber sur des nouveaux auteurs, mais c'est oui, d'abord affinitaire quoi.
Il y a pas mal de autour de la maison d'édition, il y a tout le travail sur les t-shirts, il y a un gros rapport avec, je crois que c'est Distant District, c'est ça? Alors c'est quoi Distant District?
Alors Distant District, c'est la maison mère, c'est l'association en fait dans laquelle on trouve les éditions Même Pas Mal. Et effectivement, on a des produits dérivés. On trouve des t-shirts et des visuels également sur affiche d'auteurs qu'on publie ou pas, qui sont des copains en général. Et voilà, et ça leur permet d'avoir d'autres modes de diffusion un peu sympa et original et aussi de pouvoir se promouvoir aussi par ce biais-là, quoi.
Alors, il n'y a pas fait en cul qui a été, j'imagine, un gros succès surprise, parce qu'il est parti, il me semble, à une vitesse assez surprenante quand on est un éditeur indépendant. Vous y attendiez ce succès? Ça vous a pris vraiment de court? Vous vous êtes retrouvé un peu ennuyé sur le coup ou...
Mais il a été imprimé 3 fois. Hein. On en est à 6 000 exemplaires d'imprimés. Il a eu un prix Schlingo Angoulême. Ouais, c'est clair, on s'est un peu fait. Mais c'est très bien, il y a le 2 qui est en préparation, donc.
Ça vous a amené ce prix-là et le succès de ce bouquin, ça vous a amené un peu plus de visibilité en librairie, même ne serait-ce que chez les gros libraires, hein, je pense, enfin les gros libraires, si on peut dire libraires, Virgin, Fnac, etc. Est-ce que ça vous permet de vous faire repérer un peu plus? Parce que je sais que c'est difficile d'être sur les étalages quand on est un éditeur indépendant.
Concernant Pas fait en cul, non, parce qu'en fait, il était déjà très 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 bien mis en avant dans les librairies et notamment dans les Fnac. Allez savoir pourquoi. Et du coup, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Enfin, pour l'instant, au niveau des retombées, on vend toujours autant de Pas fait en cul, mais voilà, pour les autres bouquins, je ne suis pas sûre que ça change grand-chose.
Je crois qu'on aura dit un mot mal jamais autant de fois dans notre émission. Ouh, je vais devenir tout rouge. Vos projets d'édition là, au niveau des auteurs que vous avez prévu et des BD, vous avez prévu de sortir quoi prochainement?
Eh ben là, il y a 2 bouquins qui viennent juste de sortir. Donc il y a Nager avec des chaussures, qui est un bouquin d'un Anglais qui s'appelle David Ziggy Green. Et donc lui, il est sorti il y a une semaine, quelque chose comme ça. Et il y a Les Beaux Jours Reviennent, qui n'est pas encore sorti. Donc là, il est en avant-première. On l'a reçu la semaine dernière. Donc c'est Manolo Prolo pour son premier bouquin aussi. Voilà, et après, on a en préparation El Diablo, donc scénariste notamment d'Elascar. On a un Tanks aussi à la rentrée. Voilà, il y en a plein d'autres.
Le Tanks, ça sera du neuf ou une reprise de ce qu'elle avait publié dans des fanzines aussi
Non, c'est du neuf.
Du neuf. Ah, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup, Chloé.
Merci à vous.
Nous accueillons maintenant Lucille Gomez.
Bonjour.
Bonjour. Donc, Lucille Gomez... qui est donc et ça y est, là c'est le trou. Voilà, Time Warp, c'est fini. Donc dans les bandes dessinées. Donc, c'est Comme je mange, je me suis fait plaquer et Bretzel et Baba. Ton actualité maintenant, c'est quoi ?
À la suite du tome 1 de Bretzel et Baba, je signe pour le tome 2. Donc voilà, je prépare ça. Et
toujours chez le même éditeur ?
Toujours chez le Lombard. Et sinon, j'ai un projet avec Delcourt qui est en cours. Voilà.
Ok. On ne peut pas... Pas d'infos pour l'instant ou
C'est un peu difficile d'en parler encore, mais ce que j'aimerais, c'est sortir du cliché BD pour filles et parler d'un sujet qui soit plus mixte. Enfin, mes autres sujets sont aussi mixtes, mais ouais. A priori, les lecteurs sont plutôt des femmes. Et surtout, la mise en rayon et la façon dont on le met en place, c'est plutôt pour les filles. Et là, j'aimerais parler du moment de la vie où on sort des études et on rentre dans la vie active. Parce qu'il me semble que souvent, on parle de l'adolescence sur le mal-être personnel et sur aussi les films comme L'Auberge espagnole, qui sont des films avec... un scénario choral où on voit beaucoup de personnages qui se bourrent la gueule, qui ont des histoires de coucherie les uns avec les autres. Je trouve ça chouette. Mais pour moi, ce moment de transition dans la vie, c'est d'autres choses aussi. C'est plein de questions sur comment je vais m'engager par le biais de mon métier, qu'est-ce que je veux être, comment je vais prendre ma place dans cette société. Je trouve ça intéressant de parler de ça. Voilà.
Ok. Comment t'es survenue les idées en fait pour écrire au début Baba et Bretzel ? Parce qu'au départ, c'était comme donc sur ton blog.
En fait, non. Quand j'ai fait Bretzel et Baba, c'est parti d'une rencontre. Je m'étais un petit peu dit que j'arrêterais de faire de la bande dessinée. Et puis j'ai rencontré Jean-Luc Cornette sur un festival qui m'a dit « Moi, je sors un magazine, Gramix, à l'époque. Propose-moi quelque chose. » Et je me suis retrouvée. Alors, c'est assez particulier parce que je voulais plus faire de l'autofiction. Donc, je voulais faire des personnages différents de moi. Et Bretzel et Baba sont arrivés, c'est de personnages féminins, donc c'est assez féminin. Mais je voulais que sous des aspects un peu de fraîcheur et rigolo, puisque c'était ça un peu mon univers, et pour le magazine, il fallait que ce soit des gags en une page, etc. Parler aussi en filigrane d'autres choses, c'est-à-dire Bretzel et Baba, elles parlent beaucoup d'amour, mais tout à coup, il y a une ambiguïté qui se met entre elles, et elles... L'une tombe amoureuse de l'autre et j'avais envie de jouer sur les stéréotypes qu'on a, sur les filles stéréotypées qu'on croit très superficielles parce que volage, parce que etc. Et finalement, qui peuvent aussi avoir d'autres petites questions qui s'émissent. Voilà.
Au niveau de tes dessins, comment est-ce que tu travailles ? Tu travailles directement à l'ordinateur, enfin, tout à l'ordinateur ou crayonné d'abord et,
Alors, en général, j'utilise toujours le crayon. Pour Bretzel et Baba, et ce que j'avais fait avant, c'était les personnages en mouvement et très peu de décors. Beaucoup des histoires se passent dans les dialogues. C'est très citadin comme ambiance. Et du coup, quand on m'a proposé de participer au collectif, comment je me suis fait plaquer pour Dupuis, je me suis dit, ben là, j'ai une marge de liberté. J'ai la possibilité, puisque c'est une histoire courte, de sortir de ce que je fais d'habitude. Et je leur ai proposé quelque chose où, là où d'habitude c'est citadin, là, ça se passe complètement en nature, dans la nature. Là où d'habitude je fais des aplats sur Photoshop pour la mise en couleur, là j'ai utilisé des encres, c'est plus matiéré. Et là où d'habitude les histoires se passent beaucoup dans les dialogues, c'est des répliques. Là, je me suis dit, je vais le mettre le moins de dialogue possible. Donc, en fait, je me suis dit, je vais faire confiance à mon dessin pour la première fois, puisque j'ai pas fait une école vraiment de dessin ou d'illustration. Je me suis dit, cette fois, je vais me faire plaisir par le dessin et l'histoire devra passer essentiellement par le dessin. Et là, je me suis beaucoup amusée à utiliser des effets de matière. Donc, en fait, j'ai les deux possibilités. Quand je fais des travaux de commande, je fais des strips pour des magazines en ligne, etc. Maintenant, je fais tout à la tablette. Ça va plus vite et puis... pour des strips qui sont juste des petites anecdotes, ça passe très bien. Mais maintenant, j'aime aussi l'idée de m'orienter vers des choses plus dessinées ou plus mises en couleur, plus plastiques.
D'accord, parce qu'au départ, tu n'avais pas trop confiance dans ton trait de crayon ?
Non, pas trop. Moi, je suis arrivée à la bande dessinée. Ça fait rire mes amis qui me connaissent depuis longtemps quand je dis ça, mais j'ai l'impression d'être arrivée à la bande dessinée par hasard. C'est-à-dire, j'aimais bien dessiner, j'aimais bien surtout raconter des histoires, mais je le faisais sans velléité éditoriale, en vérité. Et donc, c'est là qu'on, avec une amie, on a monté un webzine. Et ma première histoire, moi, je l'avais faite pour mes copines, sur Internet, pour mes amis, mes copains, et voilà. Et on m'a proposé d'en faire un bouquin. Donc après, ce qui m'a poursuivi, c'était cette idée que j'étais arrivée là par hasard, alors que c'est quelque chose qui est important pour plein de gens. J'ai pas eu le temps de me poser des questions sur mon style, sur ce que je voulais vraiment raconter, sur le pourquoi du comment, ce qui est très bien, parce que sinon j'aurais jamais osé passer le pas de taper aux portes des éditeurs. Ouais. Et maintenant je me pose plein de questions et donc j'évolue vachement. Ce qui me fait plaisir en fait dans ce boulot, je suis pas satisfaite de ce que je fais, jamais, mais j'ai l'impression de progresser. Et ça, c'est super chouette parce que du coup, j'ai toujours envie de faire un projet de plus et finalement, je me retrouve toujours avec un projet de plus.
Ok. Au niveau de ton travail, tu travailles toute seule chez toi ou tu travailles en studio avec d'autres personnes ?
Je travaille toute seule chez moi. Et c'est un peu un des points faibles de mon boulot, c'est quand même que j'aime beaucoup rencontrer des gens, discuter, voilà, partager. Et je suis la plupart du temps toute seule dans mon bureau. Quoi. J'ai pas encore passé le pas de travailler en atelier aussi parce que j'aime bien être mobile, j'aime bien changer de ville de temps en temps, j'aime bien et m'engager à prendre à louer un atelier, etc. Pour l'instant, ça me semblait être comme un poids dans ma vie, mais peut-être que je vais changer d'avis bientôt parce que être seule dans son bureau, c'est un poids aussi.
Pour la suite de ce que tu aimerais produire, est-ce que tu aimerais travailler un petit peu plus sur les textes, les dialogues ? Finalement, ce que tu disais, c'est qu'au départ, ton travail était très ancré dans le dialogue entre les personnages et pas forcément dans la partie graphique. Ou alors, ben, justement, vouloir accentuer ce côté graphique et être sur des œuvres. On en discutait tout à l'heure avec Maddy, qui aimerait développer un style un petit peu plus léché. Et donc, est-ce que voilà, tu aimerais t'orienter vers plus de travail de script, pourquoi pas écrire carrément des bouquins, des histoires complètes, ou alors aller vers une bande dessinée plus graphique ?
Alors en vérité, au départ, moi je pense que ce qui m'a poussé à faire de la bande dessinée, c'était l'envie de raconter des histoires. Et donc j'ai envie des deux en fait. Mon problème dans la vie, c'est que je veux tout. Et pour moi, l'idéal, ce serait de réussir à faire que l'histoire soit toujours en adéquation avec le style graphique. J'avoue qu'en tant que lectrice, je suis beaucoup plus indulgente quand le dessin est un peu plus faible mais que l'histoire me porte, plutôt que des images qui sont magnifiques, mais une bande dessinée où je pourrais pas aller au bout parce que j'aurais regardé les belles images mais l'histoire m'aura fait chier en fait.
Oui.
Donc moi, dans l'idéal, ce serait de faire les deux. Et mon grand défi, ce serait de réussir quand même à avoir une histoire super bien ficelée, là où pour l'instant j'en suis encore à faire des gags en une page, ou voilà, où j'essaie quand même de faire évoluer les personnages, et à chaque fois il y a un fil conducteur, les personnages sont pas les mêmes au début du livre qu'à la fin, mais j'aimerais vraiment me concentrer sur l'histoire d'abord. Et je pense que ça m'aidera à prendre du plaisir à dessiner ensuite. Parce que quand je me dis que ça vaut vraiment le coup d'être dessiné, je prends plus de plaisir à le dessiner. Après, je suis pas du tout contre l'idée d'écrire pour d'autres gens ou de dessiner pour d'autres gens. Ça, j'aimerais vraiment bien le faire. Après, je pense qu'il faut rencontrer les personnes avec qui on a envie que ça se fasse, quoi.
Mais c'est la question que j'allais te poser. C'est est-ce que tu serais prête, si tu arrives à écrire une histoire, voilà, qui te satisfasse intégralement, à laisser la partie graphique à quelqu'un d'autre ?
Oui, vraiment. Surtout pour des bribes d'idées que j'ai en tête et pour lesquelles je me sens pas à même de les dessiner parce que malgré tout, je reste moi avec ma main et mon trait. Et il y a des choses qui seraient plus judicieuses de faire dessiner par d'autres parce qu'ils ont un style qui apporterait vraiment quelque chose à l'histoire. Et ça, j'aimerais vraiment bien être d'ailleurs surprise par comment le dessinateur pourrait mettre en scène, etc. Mais pour l'instant, c'est beaucoup de parlotte. Et si j'avais, voilà. Mais je pense que pour l'avenir, ouais, je serais ravie de travailler avec un dessinateur et je pense que je saurais laisser la place au dessinateur. Et j'aimerais bien travailler avec un scénariste aussi qui me fasse confiance. Ouais.
Alors justement, la question suivante, ça pourrait être, mais quel scénariste, voilà, si tu pouvais en choisir un, et quel dessinateur, si pareil, voilà, tu avais l'embarras du choix et que Ce serait qui ?
Ah là là, c'est difficile. Après, les gens sont ingrats et je fais partie des gens. Donc je me souviens toujours difficilement des noms des scénaristes. Je suis moins à même de les rencontrer aussi sur les festivals, on les rencontre moins, etc. Mais non, là, comme ça, à brûle pour point, j'y ai pas réfléchi, je sais pas. Mais je sais pas.
Ton point de vue justement sur la BD numérique, comme toi tu as commencé donc par un blog, maintenant donc tu es passé sur du format papier, même si tu continues toujours ton blog. Voilà, vers quoi toi tu voudrais tendre, vers l'un ou vers l'autre ? Ou pour l'instant, ben, rien. On va dire on reste comme ça.
En vérité, j'ai un blog, mais enfin maintenant beaucoup de gens ont un blog. C'est-à-dire que je suis arrivée à la bande dessinée par les supports numériques, parce qu'en gros, on voulait monter un fanzine, mais que faire un fanzine, le photocopier, le diffuser, tout ça, ça nous semblait vraiment trop compliqué. Et donc, on a ouvert un webzine. Ensuite, j'ai eu un blog tout naturellement quand le webzine s'est arrêté. Mais je me sens pas très à même de parler de projets numériques ou de développement de projets numériques. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le dessin et le scénario, je pense qu'il faut pas avoir peur des supports numériques, qu'il faut juste les voir comme un potentiel de plus, une autre façon de raconter et qu'il y a plein de choses à inventer. J'ai participé à cette série qui s'appelle Les Autres Gens sur Internet. Ça, je trouve, par exemple, c'est une très bonne idée parce que ça utilise le côté quotidien de l'utilisation qu'on a d'Internet. Tous les jours, prendre un petit... C'est un plaisir différent que celui du livre. Et voilà, je pense pas que l'un parasite l'autre, en vérité. Je pense que... Voilà. Après, moi...
Enfin, c'est vrai que sur Les Autres Gens, c'était un petit peu frustrant d'avoir une avancée qui était aussi... aussi entrecoupé, parce qu'on ne pouvait pas avancer plus vite. Alors que des fois, dans le livre, on se dit, bon, bah, je vais dire 15-20 pages d'un coup, et là,
oui, un petit peu moins. Je suis d'accord, mais de la frustration naît le désir.
C'est vrai.
Et on sait tous, pour avoir suivi les séries, voilà, on est une génération qui a beaucoup suivi des séries, que, ok, c'est bien de se faire une nuit blanche à regarder les épisodes les uns après les autres, mais il y a aussi un plaisir à attendre la suite. Quoi.
Tout à fait. Quelle est ta dernière découverte en bande dessinée ?
Alors, ma dernière découverte en bande dessinée, c'est surtout graphiquement que ça m'a plu. C'est Robin Desbois, fait tout au feutre. C'est quelqu'un qui a été sélectionné dans la sélection officielle d'Angoulême cette année. Et c'est magnifique. C'est des couleurs incroyables, c'est un style que j'avais jamais vu ailleurs et c'est super beau. Voilà. Sinon, c'est pas une découverte, mais Ouais, non, c'est pas une découverte. Des découvertes récentes.
Coup de cœur,
Ouais. Oui, c'est quand ce coup de cœur. Alors, Anouk Ricard, on m'a offert Coucou Bouson la dernière fois. Et vraiment, je trouve qu'elle a un univers très singulier et hyper drôle. Et voilà, c'est simplement un moment très divertissant, rafraîchissant, drôle que de lire un album de Anouk Ricard.
Bon, Thio, t'as craqué sur trois instants de Julien Parra. Pourquoi ?
Graphiquement, c'était beau. Et puis j'ai vu les dédicaces qu'il faisait et je me suis dit, ça des chiens.
D'accord, parce qu'en fait, on connaît pas du tout. Hein.
Exactement. C'est, tu vois, là, c'est le truc, tu vois, tu fais, ah, ça me plaît trop et donc t'achètes.
Bon, bah, on va y aller à l'instinct. Hein,
C'est ça.
Si tu lui poses deux, trois questions, on va voir.
Exactement, tu lui mettras le micro sous la narine et pendant ça, je lui dirai de dessiner.
Et tu le prendras en photo, ça fera vraiment super pro.
Crac, ça fera, ouais, ça, exactement.
Il va se sentir super à l'aise.
Exactement. Ben hier, on a bien fait une interview où Maya Mindou était en train de nous faire une dédicace avec le Thierry, Isaac, qui lui tenait le micro sous les narines. C'était super pratique pour elle de parler et de dessiner en même temps.
Ah, franchement, qu'est-ce qu'on est sympa au Winning Club. On lance des défis aux dessinateurs tous les jours.
Ben, on sait recevoir, quoi.
Hein. Surtout quand on n'est pas chez nous.
Bonjour, nous sommes toujours au festival des Calanques et des Bulles. Nous accueillons donc Claude Gutt. Qui est coloriste en état. Bonjour.
Bonjour.
Je vais essayer de te présenter un petit peu. Donc, tu es coloriste de L'Enfance de Troyes, de Troll de Troyes, des Naufragés d'Ithac.
Oui, aussi... L'Enfance des Étoiles. Par contre, pas L'Enfance d'Odyssée. Là, j'ai arrêté tout simplement parce que Didier Tarquin voulait un peu plus d'ordinateur dans le travail de la couleur. Et moi, je suis justement un peu à contre-courant de ça, donc j'ai préféré arrêter ma collaboration avec lui. Quoi.
Ok. Tu es aussi l'auteur donc, de Pitchy Poi.
Oui. Enfin, l'auteur, co-auteur.
Co-auteur.
Nous étions deux, Laurent Cagna et moi pour le scénario, Laurent au dessin et moi à la couleur directe. Couleur directe, c'est-à-dire je travaillais directement sur les originaux de Laurent.
Ok. Quelle est ton actualité actuellement ?
Alors, actuellement, je travaille sur le tome 16 de Troll de Troyes. Sur le tome 9 des Naufragés d'Ithac. En fait, c'est un nouveau cycle qui va démarrer puisque le premier est terminé. Et j'ai également en projet depuis 4 ans maintenant de travailler avec Meister sur le prochain Sœur Marie-Thérèse des Batignolles. Mais bon, on a fait 8 pages en 4 ans, donc j'ai bon espoir que dans une vingtaine d'années, l'album sortira, quoi.
Ok.
À moins que. On ne sait jamais.
Justement, donc sur Peachy Boy, est-ce qu'il y aura un tome 2, enfin un tome 3 du coup?
Il y a trois tomes. Il existe trois tomes. On n'avait pas vraiment d'idée pour un quatrième tome. Et l'éditeur nous a pas vraiment motivé non plus. Donc du coup, on s'est arrêté là. On a fait ces trois albums, on en est très content. On a d'excellentes retombées des gens qui l'ont lu. On a aussi un succès d'estime dans la profession par rapport à ces trois bouquins. Voilà, on va s'arrêter là, c'est très bien.
Ok, donc c'est vrai que c'était un... Enfin, moi, je les ai un petit peu feuilletés, on va dire, et c'est vrai que ça me donnait un petit aspect de... ça me faisait penser au vent dans les sols, c'était... c'était un petit peu enfantin dans le dessin, dans les couleurs très
pastel. On nous a souvent associé à Michel Plessix, Vendant les Saules, et également Loïc Jonigo, la famille Passiflore, ce genre de personnages un peu animaliers. Et puis bon, c'est vrai que il y a une ambiance un peu pseudo alsacienne et normande. Il y a une espèce de mélange de culture là-dedans. C'est assez, parce que moi, je suis de la région, je suis alsacien d'origine, donc on s'est bien marré à faire ce truc-là, quoi. Les noms aussi de nos personnages sont à consonance alsacienne souvent, quoi. On a un personnage qui s'appelle Preskopf, et chez nous en Alsace, ça veut dire fromage de tête. Fromage de tête, charcuterie. Quoi.
Oh ouais.
Et on a également un personnage qui s'appelle Osterputz. Et ça veut dire ménage de printemps. Voilà, ce genre de truc.
Donc c'est vrai que du coup, si on n'est pas alsacien, on note peut-être pas justement la signification réelle des mots, quoi.
Non, mais c'était juste une histoire de
sonorité.
De sonorité, ouais, tout à fait.
Donc vous avez travaillé sur Landfest et Troll. Est-ce que ça a été le même travail, enfin même aussi avec Adrien Floch sur une troisième Gitac, est-ce que c'est le même travail de coloriser des personnes qui ont quand même des traits de dessin qui sont quand même assez différents?
Dans l'absolu, oui, c'est le même travail, dans la mesure où la couleur, c'est toujours la même démarche. C'est cette démarche de rechercher la lisibilité, d'accompagner la narration, de hiérarchiser les plans aussi pour améliorer la compréhension de la case. Donc tout ça, ça fait que le travail, quel que soit le dessinateur et l'album, est toujours le même. Après, c'est une histoire de style et de technique qui peut éventuellement changer. Justement, par rapport à Meister, par exemple, là, donc je fais de la couleur directe, c'est complètement différent que mon travail sur les trolls, par exemple, où je travaille sur un support... qui est utilisé depuis des décennies, c'est le système du bleu. Donc c'est une impression de la planche sur un papier, genre papier aquarelle, quoi, avec un film que l'on pose par-dessus pour avoir le rendu final. Donc ça change d'un dessinateur à l'autre, effectivement, au niveau du style, mais le travail en lui-même est pareil, quoi.
Le travail est pareil, mais il n'y a pas une adaptation par rapport au trait du dessinateur.
Sur les 3-4 premières planches, si. Passer d'un album à l'autre, c'est un peu difficile quand même, puisqu'il y a quand même un mode de fonctionnement qui change. Mais passer ce cap, ça va tout seul, quoi.
Bon, alors tu nous as déjà expliqué que tu travaillais donc...
À l'ancienne. Ouais.
Mais,
c'est un choix. C'est un vrai choix par rapport à... Je voulais me mettre un petit peu Je suis pas du tout. Je suis attiré par les nouvelles technologies. Hein, au contraire, je les utilise même. Mais j'avais envie de me démarquer par rapport à cet engouement pour l'ordinateur. Je pense que j'ai bien fait parce que du coup, j'espère avoir conservé une personnalité dans mon travail, ce qui est pas toujours évident avec le travail à l'ordinateur où j'ai l'impression que ça nivelle un petit peu les styles.
Ouais.
Il y a bien sûr quelques auteurs qui ont su se créer, je vais me répéter, une personnalité grâce à l'outil informatique, mais ils sont assez rares quand même.
là pour revenir sur la création d'un album, donc tu as dit que tu travaillais donc avec le film bleu, enfin le film mm-hmm. ensuite. Est-ce que tu interviens dans certains aspects de la création de l'album en lui-même ?
Non, pas vraiment. Non, c'est pour ça que quand j'entends certains coloristes qui revendiquent un statut d'auteur à part entière par rapport à l'album, je suis un petit peu sceptique parce que finalement le coloriste n'entre pas dans la création des personnages, n'entre pas dans la création de l'histoire, il l'accompagne. C'est quand même différent.
Oui, mais... Mais en même temps, c'est quand même. Enfin, s'il n'y avait pas la couleur dans certaines,
oui, dans certaines BD, c'est pour ce ça serait... que. Mais là, c'est un autre aspect des choses. Le problème du coloriste actuellement, c'est qu'il a un statut un peu hybride. Il n'est pas vraiment auteur, mais c'est quand même. Il touche. Enfin, certains touchent quand même des droits. Donc, est-ce qu'il est auteur ou pas ? La question. Et d'un point de vue purement juridique ou fiscal, on paye les mêmes caisses de cotisation et les mêmes charges que n'importe quel auteur de bande dessinée. Donc là, il y a vraiment une ambiguïté. Et j'essaye, ça fait quelques années qu'avec un collègue, Christian Lurol, on essaye de faire bouger les choses au niveau de ce statut du coloriste. Enfin, pas que Christian Lurol, pardon, on est quelques coloristes à militer là-dessus, pour obtenir un véritable statut d'auteur, mais un statut d'auteur couleur. Ce qui est quand même un petit peu différent que l'auteur qui a créé la bande dessinée, quoi.
Parce que hier soir, donc voilà, je discutais un petit peu avec Bruno Bessadi et Richard Di Martino, et ils m'expliquaient mm-hmm. justement que la rémunération des coloristes était quand même, on va dire, presque pour qu'ils touchent. Enfin, il y avait une rémunération au départ, mais pour qu'ils touchent un pourcentage sur les ventes, c'était souvent en fait le dessinateur ou l'auteur qui diminuait en fait leur pourcentage pour en donner une partie. Donc ça, de ce niveau-là, les éditeurs en fait ne reconnaissent pas du tout votre travail.
Oui, mais quelque part, est-ce que c'est pas logique ? À partir du moment où l'éditeur lui fixe un pourcentage de droits d'auteur à 14% par exemple, mm-hmm. Dans les cas où les ventes sont importantes, il y a aussi un partage qui se fait entre le scénariste et le dessinateur. Donc s'il y a une troisième personne qui intervient au niveau des droits, pourquoi pas aussi partager ce même pourcentage ? C'est un peu c'est compliqué, hein. Est-ce que le fait que le coloriste devienne touche des droits d'auteur, ça oblige l'éditeur à augmenter le pourcentage des droits? C'est pas aussi évident que ça. Si sur une bande dessinée il y a quatre intervenants, ça arrive de temps mm-hmm. en temps, il y a deux dessinateurs, deux scénaristes, il y a quatre personnes qui se partagent les 14%. Donc s'il y a 5 intervenants avec un coloriste en plus, voilà, il y a une cinquième personne. Dans mon cas, il y a une partie des droits qui sont versés par l'éditeur et une partie par les auteurs. C'est un mixte des deux. J'ai un peu plus de chance que les autres.
Mais voilà, parce que c'est vrai qu'il m'a expliqué que bon, c'était pour les coloristes, c'était quand même... déjà qu'eux avaient des fois du mal, on va dire, à vivre de la bande dessinée. Ils disaient que pour les coloristes, c'était encore plus difficile, justement, du fait de ces rémunérations qui sont finalement des fois un petit peu dérisoires par rapport au travail qu'ils fournissent.
Ceux qui sont payés au forfait, oui, c'est difficile. Ceux qui ont la chance de toucher des droits, à partir du moment où,
la BD
où
se vend,
ils tombent sur, où ils travaillent sur des séries qui marchent, bon, bah, ça peut devenir intéressant. Moi j'ai la chance de bosser sur j'ai travaillé par exemple sur L'Enfeust régulièrement, j'ai encore des droits qui tombent sur les albums sur lesquels j'ai travaillé.
D'accord. Et pour cette gestion des droits, c'est l'éditeur qui vous les reverse ou c'est comme pour la musique, un organisme comme la SACEM ou
Non, c'est l'éditeur.
C'est l'éditeur qui vous le reverse à chaque fois en fait, que vous avez vendu un certain stock de...
C'est l'éditeur qui tient les comptes au niveau des ventes et qui nous verse les droits, je crois que c'est tous les 6 mois.
Voilà. Ouais, donc
par semestre.
C'est pas super évident, on va dire, de tenir ses comptes si ça touche à...
Non, il faut tenir une bonne comptabilité quand même. Pour ceux qui gagnent de l'argent, c'est sûr que je sais bien que je suis un privilégié dans la profession. On n'est pas nombreux à, même en tant que dessinateur, on n'est pas nombreux à bien gagner notre vie dans ce métier. Mais c'est une passion, et puis on a la liberté aussi, ça n'a pas de prix, quoi.
Ouais. Par contre, juste une question presque purement technique, c'est et pour la retraite, comment ça se passe pour vous ?
Eh ouais, nous avons un organisme qui s'appelle la CREA. C'est un organisme qui était à l'époque obligatoire, ça l'est plus maintenant. Bon, on peut cotiser pour avoir une retraite, mais franchement, c'est pas très intéressant. Moi, personnellement, j'ai plutôt investi dans l'immobilier. Et puis bon, on verra plus tard ce que ça, s'il faut vendre quelque chose. Je vendrai, quoi.
Ouais,
mais c'est vrai qu'au niveau retraite, je ne suis pas très, très, très bien l'outil, quoi. Et même si j'ai travaillé une quinzaine d'années en tant que salarié dans les assurances avant de faire ce job, ça va être un peu chaotique pour toucher une retraite, ça, c'est sûr, quoi.
Et comment est-ce qu'on vient des assurances au métier de coloriste ?
Là, c'est des opportunités, en fait. Les assurances, c'était parce que, bon, à l'époque, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai trouvé ce boulot, fallait bien gagner sa vie. Petit à petit, je faisais beaucoup de dessins, parce que franchement, je m'emmerdais. Il n'y a pas photo, quoi. Je faisais beaucoup de dessins, des petits gribouillis comme ça, à droite à gauche. Et puis, j'ai intégré le service marketing de cette société d'assurance, qui m'a permis un peu de m'épanouir un petit peu dans la communication. Après, j'ai intégré une agence de pub où j'étais graphiste pendant 3 ans. Là, j'ai repris des études par la suite à l'école des arts déco de Strasbourg, et j'ai fait 3 ans à l'atelier d'illustration de Claude Lapointe. Ça m'a appris à raconter des histoires, à être efficace dans la narration, à faire passer des émotions par le dessin, enfin toutes ces choses qu'on nous a appris, et c'est des choses que j'applique également dans la couleur maintenant, quoi.
Ok.
Et j'ai petit à petit commencé à travailler sur des albums régionaux en Alsace. Après, j'ai travaillé pour Delcourt, puis pour Soleil.
Et donc tu es arrivé à aujourd'hui.
C'est ça.
Quelle est ta dernière découverte en bande dessinée? La dernière découverte en bande dessinée?
Oula, c'est pas vraiment une découverte, mais j'ai adoré Les Ignorants d'Étienne Davodeau. La toute dernière BD que j'ai lue, c'était ça, quoi. C'est une histoire qui se passe dans le monde de la bande dessinée et de la vigne.
Ah, c'est chez Futuropolis, non?
Ouais, exactement. Et ça me parle beaucoup parce que moi, j'ai deux hémisphères. Dans mon cerveau, j'ai le côté BD et le côté vigne, puisque j'ai une petite vigne chez moi, que je suis un petit peu de vin, j'ai un verger, je suis très proche du monde rural, et franchement, cette bande dessinée, elle est tombée à pic, quoi. Oui, non, j'ai adoré, quoi.
C'est le rassemblement des deux.
Ouais, tout à fait, quoi. Et puis Étienne Davodeau, c'est vraiment un super raconteur d'histoire aussi, quoi.
C'est vrai que j'avais vu l'apparition, mais c'est vrai que j'ai pas eu la curiosité de l'acheter encore.
Je te le conseille vraiment, quoi.
Bonjour, nous sommes toujours en direct du festival des Calanques et des Bulles, et on va donc interviewer un visiteur. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes venu au festival, qu'est-ce que vous avez apprécié?
J'ai apprécié la proximité avec les auteurs. En l'occurrence, j'ai... Boucle d'or de Bessadiz dans les mains, avec une jolie dédicace pour mon fils de 6 ans. Et voilà, c'est vraiment là, cette proximité. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ils prennent le temps, même si j'ai attendu la petite pause clope. Mais je l'ai fait avec plaisir. Et voilà, le cadre est agréable.
C'est un festival où vous êtes venu avec vos enfants? En famille?
Un des deux, ouais, c'est en famille en tout cas. Sur des conseils d'amis.
Des bons amis?
Oui, globalement.
Des amis proches de vous en ce moment?
Très très proches, oui.
Vous reviendrez?
Oui, volontiers. Oui. Maintenant que je connais en plus, oui.
L'an prochain peut-être, je ne sais pas encore quand est-ce qu'ils auront. Ils nous ont dit quoi? C'était 6 mois avant qu'ils savaient à peu près qui venait.
Les invités sont connus 6 mois avant, d'accord.
Ouais, 6 mois, c'est fin 6 5 mois avant pour les plus gros et puis après les autres ça dépend.
Bon, à la limite comme je suis assez novice, peu importe qui vient, moi, c'est le plaisir de la bande illustrée à manipuler, voilà.
Bonjour, on est donc toujours dans le festival des Calanques et des Bulles et nous accueillons Roger Widenlocher.
Tu parles pas fort, dis donc. Est-ce qu'on... Ah. Moi aussi, je dois pas parler fort ?
Si, 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 mais enfin, parce que moi, je m'entends en fait dans mes oreilles et du coup, pour moi, c'est très fort.
Ah, d'accord, c'est déjà les trucs dans les oreilles, c'est vrai. Ah, où je m'en dis, ce garçon est timide.
un petit peu, mais je me soigne, je me soigne.
C'est bien, continue. Moi, je me suis soigné, regarde. Ça va beaucoup mieux. Mais bon, il y a l'âge aussi. Alors, dis-moi tout.
J'aimerais d'abord vous parler de votre actualité en ce moment.
Ah, ah ouais, c'est actualité. Vrai, mais j'ai essayé. Bah écoute, je me suis présenté aux élections et là, on est en pleine campagne.
Et donc, pour le premier tour, ça devrait être bon ou pas ?
Non, non, je pense que je passerai pas le deuxième, hein, je veux dire. Mais bon, déjà un tour, c'est déjà pas mal.
C'est vrai.
Le deuxième sera peut-être gratuit. Un tour payant, le deuxième gratoche. Alors, dis-moi tout. Alors, l'actualité.
Bah oui, la vôtre.
Ben, mon actualité, c'est sur le prochain app qu'on est en train de terminer avec un nouveau scénariste, tiens à le préciser, ouais, qui s'appelle Patrick Goulesque. À la couverture, Yves Bord, qui revient après quelques années d'absence. Enfin, c'est-à-dire, on l'a obligé. C'est-à-dire, ben, je l'ai un petit peu torturé parce que pour qu'il revienne refaire les couleurs des couvertures. Donc, le prochain album de NAB sort au mois de fin août. Donc tome 14 de NAB, dans toutes les bonnes crèmeries, enfin, parce que je ne sais pas, chez les libraires on ne les trouve plus, donc peut-être dans une crèmerie, on ne sait jamais.
On ne trouve plus les albums de NAB en librairie, ils sont épuisés ou...
Non, non, mais c'est moi qui suis épuisé, je veux dire, tu as vu la tronche que j'ai. Ah non, non, on les trouve difficilement, en fait. Mais parce qu'en fait, il faut expliquer un truc, c'est que pendant le tome 13 était sorti l'année dernière, ça faisait 5 ans que j'avais pu sortir de nouveautés. Et puis, il faut dire que la crise, je trouve que la BD à l'heure actuelle, il y a quand même un petit... Enfin, ça fait quelques années quand même que ça dure. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de production et il y a beaucoup de places de prise et les gâteaux, c'est les mêmes qu'avant. Donc, on a des parts de plus en plus petites et de plus en plus de mal à avoir nos BD en place dans les librairies ou autres supermarchés. Très, très difficile. Plus dur qu'avant.
C'est pour ça, en fait, qu'il y a eu un gros délai entre les deux derniers tomes de NAB ou
Non, non, parce que j'en avais un petit peu marre. Justement, un petit peu à cause de ça, parce que bon, la BD commence à devenir un petit peu n'importe quoi. Enfin, à ce niveau-là, je veux dire... c'est bien de publier des albums, j'ai rien contre, hein. Bon, mais les jeunes, je suis encore là, les gars. Je laisserai pas ma place. Putain, je me battrai jusqu'au bout.
Bah, du coup, pendant on va dire la petite pause sur NAB, tu as travaillé sur les nouvelles aventures du Pagrave, c'est ça, en 2010?
Non. Qui t'a dit ça? Envoie-moi le. Qui t'a dit c'est de qui?
C'était un album en cadavre exquis, non? Où faisait une page chacun?
Ah non, j'ai pas fait ça, moi.
Pourtant, c'est sur tous les sites, c'est crédité même sur le site de Nouvelles Aventures.
C'est bien, on me donne du boulot.
Ah, on vous donne du boulot que vous avez jamais fait.
C'est énorme, génial, ça. Je me disais aussi, putain, je travaille beaucoup, mais je fous rien. En même temps. Excellent.
Ah bah écoute, pourtant c'est
ce sur BDG. Ce qui serait bien sur les sites, c'est qu'ils me créditent d'autres albums. Ça me dit, putain, le gars, qu'est-ce qu'il a bossé.
Ah ouais.
Ils créditent les droits d'auteur avec aussi.
Oui, tant qu'à faire, c'est hein. Ça, ce serait super.
Et du coup, donc, on va changer de sujet sur Achille Talon. Donc vous travaillez plus dessus?
Non, je travaille plus dessus. Non, on est fâchés avec Achille Talon. Non, j'ai fait 3 albums et puis après j'ai arrêté. J'ai arrêté parce qu'on avait un petit différent avec l'éditeur concernant les... Tu as vu le mec qui balance, putain, je balance, je vais me faire, j'ai viré là, ça y est, je suis foutu là. Bon, c'est ma dernière année chez Dargaud, alors j'y vais maintenant. De toute façon, on s'en fout, on est en 2012, c'est la fin du monde, alors j'y vais, je balance. Non, on avait un petit différent en question contrat, donc j'ai préféré laisser tomber, quoi.
C'est même pas une pression de retravailler sur un personnage comme Achille Talon, de reprendre une série, il y a une méthode différente quand c'est sa propre série.
Il n'y a pas de méthode. Non, en fait, non, il n'y a pas de pression en fait. Parce que moi, je m'en fous, je faisais pas les scénarios, donc j'étais plutôt tranquille. J'ai pas été con. Hein, parce qu'on m'avait demandé si je voulais faire les scénarios, je suis pas bête. Le dessin, c'était c'était moins dangereux que de reprendre les scénarios. Les scénaristes, c'est des mecs qui sont fait aligner, hein, je veux dire. Quoique moi, je tiens à dire, je sais pas qui l'a fait. J'ai eu une critique. un mec qui faisait critique de BD qui m'a dit que les Achille Talon que j'avais fait étaient très très moches. Alors je tiens à lui dire qu'il aille se faire voir. Il a qu'à aller faire lui-même. Non, je déconne, mais c'est vrai qu'il y avait un gars qui avait dit ça, mais bon, en même temps, je cherchais pas à refaire du Greg, donc. Parce qu'il disait, oui, ça vaut pas Greg, bah évidemment, il est couillon. N'importe quoi, et j'étais pas là pour ça non plus. Hein.
Ta dernière découverte en bande dessinée, ce serait quoi ?
Mon dernier album, parce qu'en fait, je nique les miens. Non, c'est vrai, j'ai pas de découverte en BD, j'en lis très peu, je vais te dire très honnêtement. Parce qu'en fait, mon truc, c'est que je suis pas. Alors, je suis un des rares dessinateurs dans la BD, je tiens à le préciser, qui ne suis pas un fan de dessin. Alors, très étonnamment, ça fait plus de 25 ans que je suis dans la profession, et en même temps, c'est pas ce que je voulais faire à l'origine. Donc, c'est très étrange, et pourtant, je suis encore là, tu vois, comme quoi. Ouais. Donc, si vous voulez vous lancer dans la bande dessinée, les jeunes, ça marchera pas. Lancez-vous, je sais pas, dans un autre métier, vous allez faire de la BD. Tu vois, c'est comme ça que ça marche.
Ok. Oui. Juste pour finir, j'avais une question. Est-ce qu'il y aura bientôt un album audio de Wooden Locher ? Parce que j'ai vu que tu avais des qualités de chanteur assez remarquables.
Non. Alors là, par contre, oui, c'est pour ça que je disais que je me consacre à autre chose maintenant. C'est-à-dire, à l'origine, je t'ai dit, donc je n'étais pas trop dans le dessin. Et je reviens un petit peu à mes premières amours de jeunesse. C'est-à-dire, quand j'étais plus jeune, je voulais faire du théâtre. Et notamment du one-man show. Ce qui n'était pas la grande mode... quand j'avais 17-18 ans, je veux dire, à l'époque, tu vois, on n'avait pas tous les mecs qui font des one man show maintenant, du comment ils appellent ça,
du stand-up.
J'aime bien le stand-up, c'est les blagues à Toto les unes derrière les autres. Mais bon, il y avait des gars comme Bedos, De Vos, tout ça. Et moi, à l'époque, c'est ce que je voulais faire. Bon, mais j'étais un petit peu cucul à praline, un peu. Et puis j'habitais Marseille, et c'est vrai, dans ces années-là, années fin 60. Il y avait rien sur Marseille, il y avait pas de café théâtre, il y avait que dalle, donc il fallait aller à Paris. Alors nous monter à Paris, tu vois, dans le Nord, on s'est dit mon Dieu, Nord. Et puis j'ai échoué dans le dessin. Mais je vais revenir à mes vieilles amours, c'est-à-dire là je fais du théâtre, donc maintenant, et là je suis en train d'écrire un spectacle pour moi. Alors qui sera mauvais certainement, mais je m'en fous. c'est pas pour changer de métier, c'est pour me faire plaisir.
Il y aura deux spectateurs, au moins on essaiera de venir.
Voilà, deux. Alors il y aura bien sûr des sketchs et du chant. Okay. Parce que je suis un petit peu. Non, mais là c'est vraiment. Là je fais ça parce que je me dis au fond. Je me consacre si tu veux à NAB. J'ai pas envie de multiplier les albums BD. De toute façon, on m'en a proposé. Alors faire de la BD, tu peux en faire. Hein, je veux dire, du boulot, je peux en avoir. Mais le problème, c'est pour faire des albums qui vont alimenter des libraires qui les mettent jamais en place, ça sert à rien. Donc je préfère encore continuer à faire NAP, ça me suffit largement, et puis faire autre chose à côté. Donc on veut faire aussi avec des copains, on a d'autres projets de courts-métrages, des trucs comme ça. On va faire aussi comme Johan Svar. Johan, si tu m'entends, fais gaffe, on arrive. Putain, mais nous, on est drôles. Non, je déconne. Hein. Je vais faire un ennemi, sinon. Non, Johan, je t'en prie, je t'aime, tu sais. Parce qu'il doit avoir des... Il doit avoir des manches pour des producteurs. Dis, Johan, si tu peux nous appuyer, le gars. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Non, c'est fini.
Juste c'est tout ?
Ouais,
tu m'avais dit une demi-heure la dernière fois.
Mais si, nous... j'ai parlé du chant, j'en ai déjà parlé.
Oui, alors
tu écoutes pas, en fait.
Il voulait te faire chanter.
Ah oui, alors si vous voulez une petite chanson, je peux. Alors je vais vous chanter une petite chanson qui est de Marseille, parce que je tiens à dire, j'habite dans le Gers profond, mais qu'à l'origine, j'habitais Marseille très très longtemps. Donc je vais vous chanter une petite chanson qu'on avait l'habitude de chanter ici, qui est très très courte, et elle est très très symptomatique de la région. En plus, il fait beau. Alors je vais vous le faire. Alors. Ah putain, 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 qui fait beau. T'es putain, 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 qui fait chaud. Ici même, les mouettes bronzent. Des putains de loin, on dirait des corbeaux.
Bravo.
Tiens, on finit, c'est grandiose, putain. C'est grandiose, c'est majestueux. Ah, maman, si tu m'entends, c'est pour toi.
Eh bien, voilà.
Le festival touche à sa fin.
Il reste donc...
Deux survivants.
Deux gladiateurs.
Deux warriors.
Des guerriers, des vrais, des anciens.
Des durs.
Des durs. Et là... Oh, la panthère des Calanques qui surgit.
Ouh là 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 là.
La panthère des Calanques, toute noire.
Les gens ne connaissent peut-être pas toute cette histoire.
Pâte de velours.
La panthère des Calanques est l'emblème du festival des Calanques et des Bulles, car il faut savoir qu'un jour, il y a une rumeur comme quoi il y avait des Calanques, une panthère qui traînait dans les Calanques. Et les journaux en ont fait grand bruit pendant longtemps.
C'est ça.
Il s'avérait que c'est un gros chat.
Écoute, là, je vois la panthère se dirige vers nous. Attends, j'ai pas envie d'être bouffé là.
Oh. Ouh là là, faisons gaffe.
Oh, Kiki.
En tout cas, quoi qu'il en soit. Il s'approche.
Doucement, Kiki, doucement.
En tout cas. Nous, on est en pleine attente. Le festival a été plutôt pas mal. Les orgas ont l'air contents, en tout cas. Je leur demanderai peut-être tout à l'heure. C'était genre moins de quantitatif, mais plus de qualitatif. Ça sonne bien. Hein.
Ça sonne bien. Ça sonne un truc de commerce, tu vois.
Ça, ouais, c'est école de commerce. Mais bon, on peut pas leur en vouloir. Arrête avec ce chat.
C'est pas un chat, c'est une panthère.
C'est une panthère, ouais. Et donc, là, on attend Turf. On espère qu'on va pouvoir faire une longue interview, mais c'est peut-être pas à gagner.
Je crois qu'il reste là ce soir, donc a priori, voilà. Ça va être bon.
Ouais, on va peut-être pas trop
chercher.
Parce qu'en
fait, parce que tu vois, rappelle-toi que pour aller jusqu'à Angoulême, il y a au moins 7 heures de train.
Donc,
du coup,
chose.
A priori, je ne pense pas qu'il reparte ce soir. Il repartira, je pense, demain.
Il y a des trains de nuit, hein.
Oui, mais je pense qu'il repartira quand même demain dans la journée.
Voilà. Et donc, on se retrouve tout à l'heure.
À toutes. Ciao, ciao.
Nous sommes avec Turf, l'auteur de La Nef des Fous et de Magasins Sexuels. Bonjour Turf.
Bonjour.
Bonsoir même. Tu es un peu un des survivants du Festival des Calanques et des Bulles, un des derniers à dédicacer.
Et oui, on m'achève.
Tu es toujours autant à fond jusqu'aux dernières minutes, autant que possible en dédicace.
J'ai toujours connu ça, souvent, très souvent même. Connu les vigiles, les chiens et la salle où on coupe le chauffage et la lumière. Ouais.
Tu te fais virer à chaque fois.
Oui, et même des fois, j'ai fini au bar
avec
mes clients, enfin mes lecteurs.
La Nef des Fous, ça a été une longue aventure. Ça a duré un grand moment. Comment tu expliques le fait que tu aies mis autant de temps à finir cette série ?
Parce que déjà, l'univers était riche au niveau du dessin. Assez long. Je ne suis pas un très bon dessinateur, premièrement. Et je fais beaucoup de produits dérivés de la nef, des affiches de festival, des affiches tout court, des ex-libris, des découpages, des puzzles, dès qu'il y a des figurines qui sortent, moi je fais souvent la boîte de la figurine, plus le certificat. En fait, je me suis un peu dispersé, on va dire.
Tu savais où tu allais dans le scénario quand tu as commencé La Nef des Fous ou ça s'est construit au fur et à mesure ?
Oui, en fait, La Nef des Fous, c'est une histoire de 90 pages que j'ai coupée en deux. Donc les 46 premières, à peu près la moitié, c'est le tome 1. Et les 46 suivants, c'est les 6 autres tomes. Voilà.
Tu as délié un peu.
J'ai pas délié, j'ai rajouté. Non, j'ai pas délié. J'ai rajouté des ingrédients, au contraire. J'ai rajouté des personnages qui étaient pas prévus. Le prince mutatif n'était pas là, normalement, à la base. Il y avait beaucoup de robots. Et normalement, Arthur et Clorinthe, ils partaient à l'extérieur de la nef. Mais on ne savait pas ce qu'ils faisaient à l'extérieur. Et après, ils revenaient. Et là, par contre, j'ai raconté dans ma série ce qui se passait à l'extérieur. Bon, pas grand-chose, mais c'est parce que...
Il y a un grand mélange de genres dans La Nef des Fous. On ne sait pas trop comment le situer en tant que genre. Il y a un petit côté SF, il y a un côté un peu onirique, un côté utopie. Pourquoi tu es parti comme ça ?
Je voulais faire déjà une BD qui n'existait pas et puis réunir tous les thèmes que j'aimais, quoi, pour ne pas m'ennuyer. Je pense qu'inconsciemment, je m'étais rendu compte qu'il ne me faudrait pas 2 ans pour faire ma série, mais une bonne vingtaine d'années. Et donc oui, voilà, l'univers est riche parce que j'ai pas envie de m'ennuyer. Quoi. J'avais pas envie de m'ennuyer sur le dessin et puis avec les personnages.
Voilà. C'est ce qui explique un peu toutes les expériences graphiques qu'il y a au milieu, avec les dessins un peu plus dans des styles différents. Voilà. Bien alors le petit roi à côté. Qui est...
Comme j'ai dit tout à l'heure, je dessine pas très bien. Je galère pour dessiner. On peut pas dire laborieux parce que des fois les dessins viennent facilement. Des fois j'aime pas mon travail alors qu'il est bien. Parce que je le retrouve 6 mois plus tard et je me dis mince, pourquoi j'ai pas fait cette case alors que le dessin était bien et j'ai accepté une autre où le dessin est pourri. Voilà. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça.
Vous parlez des expériences, des changements voilà. De style.
Donc, comme pour moi, le travail du dessin, c'est un travail. C'est pas toujours agréable. Il faut que j'ai une bonne idée pour être derrière ma page. Donc, du coup, je cherche soit des idées graphiques, soit des idées narratives qui font que j'ai envie de... Par exemple, je vais coller un... Je sais que je vais vais coller un bout de bois sur ma case à un moment pour faire une ardoise, et j'ai vraiment envie de dessiner, de me mettre à ma table parce que j'ai cette idée là ou alors je la page des grille-pains, j'ai cette idée là je vais faire des grille-pains, on voit toute la scène se passe dans le reflet du grille-pain, et là t'as vraiment, c'est le moteur quoi, t'as vraiment envie de travailler, tu peux passer 40 heures sur ta page sans t'en rendre compte quoi.
Magasin sexuel, donc c'est ta dernière sortie, c'est le premier tome.
Oui.
T'as complètement changé d'univers. Tu es parti sur quelque chose de plus terre à terre. Tu voulais te remettre les pieds sur terre, avoir quelque chose de plus simple au niveau de la construction.
Non, c'est à part du pitch, de l'idée de base. Je ne sais plus comment j'ai trouvé cette idée-là d'un sex shop ambulant qui s'installe sur une place du marché. J'ai oublié, parce que c'est une idée qui est assez vieille, qui a au moins 6-7 ans. Et que j'avais mis de côté parce que je voulais à tout prix finir la nef pour ne pas faire attendre mes lecteurs. Parce que j'ai fait quelques bêtises pendant que je faisais la nef des fous. Quand les gens attendaient le tome 4, j'ai fait Le Petit Roi qui était le hors-série. Et quand les gens attendaient le tome 5, j'ai fait Gribouilly. Donc forcément, les ventes de la nef ont coulé. Et donc, j'ai pas envie de faire ça à mes lecteurs. J'ai d'abord fini l'histoire. Voilà. Donc j'avais le pitch de cette camionnette et c'était ça le moteur. Après je m'en fous que ce soit pas le même genre de décor. L'histoire me plaisait. Il y avait des confrontations entre deux personnages, des dialogues plus réalistes et plus adultes aussi. Et ça parlait de sexe. Dans la nef je pouvais pas en parler. Ça n'avait aucun sens dans la nef des fous. Et là par contre mais en même temps je m'étais mis voilà, j'étais sur le fil du rasoir. Je voulais pas que ça devienne vulgaire. Je voulais en parler, mais sans déranger les lecteurs, mais sans les faire chier. Voilà.
J'ai vu dans une interview, tu disais qu'il y a eu un problème selon toi de placement, de lancement de la série Magasin Général.
Magasin sexuel.
Ouais, Magasin sexuel. Ouais, c'est l'autre.
Ouais, il m'a copié.
quel voleur d'idées.
Le titre n'est pas de moi, hein, pour souligner. Moi, le titre original, c'était Sex Shop.
Oui, je l'avais
mais
vu dans une interview.
Mais l'éditeur n'était pas d'accord. Et c'est eux qui m'ont proposé Magasin Sexuel. Parce que moi, j'ai proposé une soixantaine de titres hein, donc, qui m'ont refusé, forcément. Voilà. Donc, j'ai accepté ce titre-là, qui n'est pas de moi.
Mais... D'accord. Oui, je disais que il y avait eu des problèmes de placement, que tu t'es retrouvé en dédicace sans le bouquin parce qu'il était épuisé. Qu'ensuite, quand ils ont refait le retirage, il y avait eu des soucis. Est-ce que ça va poser des problèmes pour le tome 2 ? Est-ce que...
Non, parce que la maison d'édition est consciente du souci qu'il y a eu. C'est un peu de leur faute. Pas entre guillemets, c'est un peu de leur faute. Et voilà, ils vont sûrement essayer de réparer le coup. Mais en même temps, ça vient aussi des libraires. Si les libraires, la Nef des Fous, c'était une vente. Ils plaçaient 12-15 000 bouquins à la sortie à la nouveauté. Pourquoi les libraires commandent 7 000 de mon nouveau bouquin ? Tu vois, ça vient un peu des libraires aussi. Après, moi, il y a des libraires chez qui je devais aller dédicacer. Et ils m'ont dit, j'en ai pris 20, je les ai tous vendus, j'arrive plus à en avoir. Ben, il fallait pas en prendre 20 s'ils croyaient à mon boulot. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a trop de nouveautés qui sortent actuellement. Et, voilà. Et des petits auteurs comme moi qui sortent un bouquin tous les 2 ans, ben, j'ai plus ma place parce que le libraire, il a mis les auteurs qui sortent un bouquin tous les 6 mois.
Tu crois que c'est encore possible, à l'heure actuelle, avec l'évolution du marché de la BD, d'être un auteur justement qui sort un bouquin tous les 2 ans et de faire que de la BD ?
Ben écoute, pour l'instant, je continue un peu comme ça, mais je regarde ce qui se passe quand même, je ne suis pas si naïf. Si à un moment, ben, il faut supprimer la couleur pour aller plus vite, ou s'il faut faire un dessin plus simple, je le ferai, ben, parce qu'il faut que je vive de mon travail quand même.
D'accord. Tu veux continuer à faire que de la BD ou bien tu vas aussi, j'ai vu que tu avais fait un peu de com, de travaux de
com. Oh, la com, c'est parce que c'était super bien payé et c'est eux qui sont venus à moi. Je recherche pas ce genre de truc en fait. C'est des fois, le projet est amusant. Quand on m'avait appelé pour faire les vitrines de Noël, moi, c'est avec mes yeux de gosse, je me dis, ouais, je vais faire des Pères Noël. Mais non, il y avait tout un programme, tout un scénario écrit et j'étais simplement l'exécutant. Je devais dessiner des faits. Voilà. J'ai accepté parce que c'était payé comme jamais je serais payé en BD. Quoi. Quoique. J'ai fait pour Astérix, j'avais fait 2 pages et j'ai été super bien payé.
Tu viens de l'école des Beaux-Arts d'Angoulême.
Ouais.
De ta section, il y a eu quand même beaucoup d'auteurs de BD qui se sont quand même connaître. Hein, pas mal, hein. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là?
Eh ben, en fait, ils avaient pris une classe de mauvais. C'est ça le truc. C'est que les années précédentes, il y avait De Crécy, Chaumet, Chevillard... que des bêtes en dessin, et les profs ils étaient pas au niveau quoi. Donc ils ont pris des élèves moins bons, plus souples, plus facilement. Donc, ouais, ils nous ont écrasés. Ils nous disaient, à chaque fois que vous montrez un dessin, ils nous disaient que c'était nul, voilà. Mais nous, on avait vraiment envie d'en faire. Par contre, Moi, on venait tous de coins très, très différents. Moi, je venais de Marseille. C'est toujours à 8 heures de train d'Angoulême. J'avais un copain qui venait de Bora Bora, un autre du nord de la France. Tu vois, ça venait de toutes les directions. Mais on avait envie de faire de la BD, quoi. Le piège, c'est qu'au bout de 2 ans, on a été embauché dans le dessin animé. Alors qu'on était encore étudiant, on faisait les décors de Denver, des Tortues Ninja. Et du coup, ben, beaucoup sont restés dans le dessin animé pendant 3-4 ans après les Beaux-Arts. Et moi, j'ai eu la chance, c'est qu'au bout d'un moment, ils m'ont viré. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais je ne suis pas venu à Angoulême pour faire du dessin animé, du décor, quoi. Moi, je veux faire de la BD et j'avais déjà commencé. Je venais déjà de finir les Remparts d'écume avec Joël Mouclier, dont j'étais le scénariste. Et ça y est, j'avais commencé à écrire La Nef des Fous, à faire des recherches. Et donc, je me suis lancé sur ces 6 mois de chômage. Comme j'avais moins de 25 ans, j'avais pas le RMI. Et comme j'étais intermittent, mais qu'on n'était pas vraiment intermittent, ben j'avais pas de chômage. Donc ça a été 6 mois assez durs. Mais voilà, quand j'ai signé chez Delcourt, le dessin animé m'a à nouveau embauché. Et là, double entrée d'argent, c'était génial.
T'as prévu combien de tomes sur Magasin Sexuel ?
2. En fait, moi, j'en avais prévu 3. Mais à la présentation du projet, Guy Delcourt, parce que je travaille directement avec lui, m'a dit on n'en fera que 2. Alors, peut-être qu'il s'est souvenu qu'il y a 17 ans, La Nef des Fous, c'était en 2 volumes aussi. Et que ça a duré 17 ans, justement. Voilà.
Tu vas enchaîner sur autre chose
là, en ce moment, je me pose énormément de questions. Je pensais que Magasin Sexuel se vendrait mieux que La Nef des Fous parce que le thème est plus moderne, plus jeune, plus frais et plus tout public. Et j'ai fait une narration aussi plus simple, c'est-à-dire que je fais pas des mises en page compliquées comme dans La Nef des Fous. J'ai évité les ellipses un peu bizarres aussi que j'ai fait sur La Nef. J'essaye d'être vraiment limpide, mais bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça s'est complètement vautré mon bouquin. Donc je doute énormément. Qu'est-ce que je vais faire après ? J'avais envie de faire une histoire fantastique. Parce que je suis beaucoup plus à l'aise au niveau des recherches graphiques, tout ça. Moi, dessiner la réalité, ça me gonfle. J'ai jamais travaillé d'après photo, donc être obligé d'aller voir sur Internet à quoi ressemble un poteau téléphonique ou une Twingo, ça me gonfle, moi. Donc, je préfère créer. Donc, j'hésite entre faire une BD fantastique, refaire une Nef des Fous pour conclure, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de la fin. Pas pour conclure, mais pour faire vivre mes personnages, et peut-être une BD autobiographique, mais c'est tellement, tout le monde fait ça, une BD autobiographique, mais j'ai tellement de trucs à raconter en même temps sur mon parcours, pourquoi j'en suis arrivé là.
Ce serait intéressant.
Oui, mais le problème, c'est quel style graphique adopter. Je ne peux pas y passer autant de temps que sur La Nef, et avoir un dessin minimaliste, c'est tellement éloigné de ce que je fais d'habitude. Voilà,
ok. Ta dernière découverte en BD, tu lis encore beaucoup
Walking
de BD
Dead.
Walking Dead.
Ouais, j'ai découvert. Ouais, en fait, j'ai commandé au Père Noël la série télé, parce que j'aime beaucoup les séries télé. Et j'ai demandé à Masbou au festival s'il les avait lues. Il m'a dit oui, c'est super. Donc, du coup, au festival d'Angoulême, j'en ai pris 3 et ça y est, j'ai tout lu.
c'est un piège, hein, c'est un piège ouais, de BD.
Non, graphiquement, je trouve ça assez moche, mais j'excuse le dessinateur parce qu'il fait une page par jour. Et que je serais incapable de faire la même chose, surtout en dessin réaliste. Donc c'est moche, mais c'est pas grave parce qu'il a un bon découpage. C'est pas si moche que ça, il y a des dessins qui se tiennent. Mais c'est pas un beau dessin réaliste, quoi. C'est pas très élégant. Walking Dead, j'ai lu aussi Chronique de Jérusalem, que j'ai trouvé intéressant, mais pas de là à dire que c'est le meilleur album de l'année. Par contre, c'est très intéressant pour le voyage qu'il a fait, le dessinateur, quoi. C'est parce que. On sait que c'est la grosse merde là-bas, mais on n'imagine pas à quel point ça allait. Ils en ont pour 3000 ans avant de s'en sortir, je crois.
D'accord, bah merci beaucoup.
Ben, merci à vous d'avoir attendu la fin du festival, la fin de la dédicace.
Nous sommes à la soirée de fin du festival, donc la tension est en train de retomber. Et nous sommes avec Maxime et Benjamin, qui travaillent tous les deux sur le festival, et aussi, que vous connaissez déjà, Christopher et Olivia. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Christopher, on t'a pas beaucoup vu, enfin si, on t'a vu, qui errait dans tout le festival.
Non, il n'est pas gentil quand même, il ne errait pas, il courait dans tous les sens.
Oui, c'est vrai. Ça va ?
Ouais, ça va, bah, maintenant ça va. une fois que c'est réglé, là j'ai commencé à finir de courir. Manger le premier repas de la journée vraiment un peu complet. Là, ça va, ça fait du bien.
Notons quand même une pizza.
Ouais, après le week-end, ça devient complet ce type de repas en fait.
Ok, qu'est-ce que t'as, tes impressions sur le festival là, à chaud?
Bah écoute, ouais, comme tu dis à chaud, je crois que ma capacité d'analyse elle est pas totale là, très clairement. Donc je te dirai peut-être pas les mêmes choses la semaine prochaine, mais bon déjà je suis content. Je suis content parce que parce qu'on a fini, parce que ça s'est bien passé et parce que tout ce que je voulais qui se passe dans le sens que je voulais, ça a réussi. Pas de problème notable, ça fait du bien.
Ok. Maxime, toi tu bossais sur quel pôle?
Alors moi cette année j'étais sur le pôle animation.
Ouais.
Donc on était trois et donc je me suis occupé en partie de faire venir une troupe d'improvisation pour mettre l'ambiance pendant le festi et faire des matchs d'impro dessinés. C'est-à-dire faire participer des autres, des dessinateurs pour dessiner avec spontanéité par rapport au match d'impro.
Ça a marché ?
Très bien, on a fait ça le comble et c'est vraiment une réussite. On espère pouvoir le refaire l'année prochaine.
Ok, il y a qui a dessiné ?
Bruno Bessadi, Domas, Ibi et Di Martino, ils ont participé à notre animation.
Oh, que des gens qu'on aime bien. Attention, vas-y Olivia.
Non, bon, en fait, c'était pas Bruno Bessadi, c'était Vincent Co.
Ah, c'est pas
avec
les mêmes.
Domas.
C'est pas les mêmes quand même.
Non, mais ça.
Philippe Attention. Cardona aussi.
Ah, Clémentine s'incruste dans la conversation. Oui. Oh, oui, c'est qu'on
si,
a
si,
du
si,
monde.
Il y avait Philippe Cardona.
Bon, ok, il y a un grand doute,
avait,
mais bon.
Quatre, c'était deux équipes de deux. Il y avait Domas, Vincent Co, Philippe Cardona et Ibi. Voilà.
C'est ça. D'accord. Merci Clémentine.
Merci Clémentine.
Bon, Olivia, voilà. Vu que tu as le micro en main, alors. Ce festival
bah, génial.
Tu as du mal à trouver les adjectifs, c'est ça? Tu es en train encore un peu à l'ouest.
Pourquoi il convenait pas celui-là? Non, si, si, franchement. Ouais, mais super. J'étais moi-même impressionnée par l'organisation sur place, en fait, parce que je trouve que c'est énorme, en fait, et on a bien géré, je pense. Enfin, sans nous lancer des fleurs, non, mais. Ouais.
Ouais.
Bravo à tout le monde, en fait.
Y a...
Bravo à toute l'équipe.
Vas-y, Clémentine.
Oui, alors moi je voudrais dire que cette édition c'était particulièrement un succès parce qu'on s'était, on s'était imposé plusieurs défis pour cette édition et on a eu la bonne surprise de voir que nos efforts ont été récompensés très largement sur tous les projets qu'on avait lancés.
C'était quoi
pour
les
cette,
défis
cette édition? Pardon?
Les défis c'était quoi?
Les défis c'était les conférences, les défis c'était bah, par exemple les interviews, c'est la première fois qu'on en fait sur le festival. Les
on défis, était un défi. Aussi, on était un défi.
Un défi à nous-mêmes.
Oui, 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 c'est vrai, mais je veux dire, de relancer ça et puis aussi développer l'espace manga, développer l'espace B, l'amphibé, etc. Donc vraiment, on a réussi sur plein de points, donc on est très satisfait de ça. Je voudrais en particulier dire merci à Christopher, le chef de projet, pour sa réactivité, pour son travail, pour gérer tout le monde. Je voudrais aussi remercier Valentin du pôle logistique. Parce qu'il a été un dieu sur tout le long du festival. Il faut le dire, il a été serein, il a su réagir à tous les problèmes d'une façon très...
Non, mais je tiens à le dire. On s'envoie tous des fleurs à ce moment-là.
D'une façon très, très sereine. Donc, il a su gérer très calmement tous les soucis. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un souci, on allait le voir. Et il réussissait à régler le problème.
Et tes parents, sans qui tu ne serais pas là.
Et la paix dans le monde. Voilà. Hein, Valentin.
Valentin. Ouais. Alors paraît que c'est toi le champion du monde du festival. Paraît que c'est toi le champion du festival, le dieu du festival.
Le dieu du festival. Ça me fait plaisir. J'espère que c'est mes collègues qui l'ont dit.
Oui, c'est pas nous. Non, nous, on te connaît pas encore.
Non, bah, écoutez, ouais, non, je me suis occupé de l'organisation plus ou moins comme j'ai pu. Apparemment, c'est pas trop mal déroulé. J'espère.
Ouais, il fait le modeste.
Et puis voilà.
Hein.
Non, c'est, bien, voilà. C'est bien, non, il, comme ça, vois, il a pas la tête qui enfle et tout, c'est, voilà, il est modeste, c'est bien.
Comme ça, du coup, ils vont pouvoir rajouter une deuxième couche. Non, non, mais si, j'insiste, non, franchement,
d'ailleurs, je vais leur passer le micro.
C'était vraiment super.
Vas-y, Olivia, répète-le.
Merci, Valentin. Ouais. C'était super, tu es le dieu du festival.
Est-ce que vous pouvez m'applaudir, s'il vous plaît? Merci.
Ok, alors, vite fait, comme ça, est-ce que, d'après vous, il y a des trucs qui ont, je veux dire, ça... C'est jamais parfait quand même. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont un peu foiré là que vous pensez pouvoir faire mieux la prochaine fois? Vas-y Benjamin.
Comme disait tout à l'heure Christopher, cette année on s'est rendu compte qu'on arrivait à faire du qualitatif, c'est-à-dire avoir quelque chose vraiment qui fait plaisir à toutes les personnes qu'on a croisées, beaucoup de visiteurs. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du quantitatif, donc du nombre de personnes sur le festival, on aurait peut-être pu avoir un nombre de visiteurs plus conséquent. Après, on ne s'arrête pas là parce que c'est pas ça qui fait vraiment la qualité du festival. Et,
sur un festival gratuit, quelque part, c'est pas non plus un souci pour... Le nombre de visiteurs
c'est pas ça qui va faire mourir ou vivre plus longtemps le festival, pas du tout. C'est quand même mieux quand on s'est donné de voir que le festival est rempli tout le temps. Ensuite, comme l'ont dit déjà bien assez mes collègues, c'est un festival qui nous a tous comblés, qui s'est très bien passé, enfin à part tous les petits soucis qui amènent un événement. Mais au final, on est tous contents et ce soir, le sourire qu'il y a sur les visages prouve que...
C'était cool.
C'est pas mal, ouais.
Bon, alors, ceux qui sont là l'an prochain, là, est-ce que vous n'avez pas un peu de stress avec un festival qui, apparemment, c'est quand même vachement bien passé?
Ça, par contre, ça sera mieux l'an prochain. Hein.
Je vous attends, hein. On reviendra.
Olivia?
Mais en même temps, oui, bah si, effectivement, parce que ça fait 14 ans que ça dure, donc il faut qu'on tienne le festival l'année prochaine, qu'on fasse encore mieux. Et bon, là, il y a un auteur qui m'a dit « c'est parfait », donc je ne sais pas comment on va faire mieux que parfait, mais...
Vous avez déjà eu des retours des auteurs?
Ouais.
Christopher
On a eu quelques retours. Moi, je donnerai quelques retours à Olivia parce que, moi, de mon point de vue, c'était pas non plus parfait. Du coup, je pense que j'ai quelques petits conseils à lui donner. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire vraiment mieux, très simplement. Et je fais vraiment confiance à Olivia pour l'an prochain.
Votez Olivia.
Et on a tous noté, en fait, les petits détails qui allaient pas ou les gros trucs. On avait notre calepin, Maxime aussi, enfin Benjamin, Maxime, tout le monde, voilà.
Ok, merci beaucoup. Nous, en tout cas, on a passé un très bon moment.
Super week-end, vraiment, merci beaucoup.
Super.
À vous.
Bah oui, on aurait pu vous demander déjà à vous. Ouais.
Bah écoute, moi j'ai passé un super week-end avec une organisation qui est un petit peu aux petits oignons, quoi. Tu les vois courir partout, dès que tu retournes, tu cherches quelqu'un de l'organisation, il y a toujours quelqu'un à côté de toi et qui répond super bien à tes questions, quoi.
Super.
Moi, je trouve que je mets à la place des auteurs. Je pense que franchement, ils n'ont pas le temps de se retourner et il y a quelqu'un qui leur amène un truc à bouffer.
Des petites gaufres au chocolat.
Des petites gaufres au chocolat, tout ça.
Nous, d'abord, on s'en fout.
Voilà. je crois que c'était le...
Bon bah, prochaine.
À l'année prochaine.
Alors, sur ce.
À l'année prochaine, mais on s'en fout quand même. Hein.
Merci, à bientôt.